VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Au Mali, un responsable du groupe djihadiste en sardine a déclaré aujourd'hui à l'AFP à Bamako que son groupe retenait trois collaborateurs du CICR, la Croix-Rouge internationale, qui, selon cette organisation humanitaire, ont été interceptés sans effusion de sang le week-end dernier dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays. En contrepartie de la remise en liberté des trois humanitaires avec lesquels le CICR affirme avoir perdu contact depuis le 16 avril, en Sardine réclame la libération de leur guide arrêté par la force française Barkhane qui traque les djihadistes dans le Sahel, a expliqué ce responsable Noureddine Ag Mohamed. La Cour suprême de Côte d'Ivoire va se prononcer aujourd'hui sur la tenue du procès prévu le 9 mai de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, pour crime contre l'humanité. Ce qui est contesté par ses avocats, Jacques Aristide.
Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, avait été déboutée le 17 mars par la Cour suprême après avoir introduit un pourvoi en cassation contre son renvoi aux assises au motif que son mémoire avait été déposé tardivement. Maître Roderick Dadji, un des avocats de Madame Gbagbo, rejette cet argument. Il affirme avoir déposé son mémoire dans les temps contre l'arrêt de la chambre d'accusation rendu le 27 janvier renvoyant Madame Gbagbo aux assises. La Cour suprême a été saisie une deuxième fois par la défense de Mme Gbagbo contre la décision du 17 mars. Si la décision de la Cour suprême est favorable, il n'y aura pas de procès Simone Gbagbo le 9 mai, a déclaré l'homme de loi. Une décision contraire va renvoyer l'ex-première dame aux assises pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Simone Gbagbo a été condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Son époux, Laurent Gbagbo, est lui actuellement jugé à la haie par la Cour pénale internationale.
Au Bénin, une bonne partie des citoyens disent ne pas comprendre le bien fondé de la rencontre en Côte d'Ivoire qui a abouti à la réconciliation entre l'ancien président Yayi Boni et son successeur Patrice Talon. Ils qualifient cette réunion, facilitée par les présidents togolais et ivoiriens, de diversion. Pour eux, l'ex-président béninois cherche à se procurer une certaine immunité parce que les réformes pourraient mettre à nu les scandales qui ont jalonné les 10 dernières années. Que pensent les observateurs béninois de la vie sociopolitique de cette rencontre entre les deux hommes? De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur a demandé.
L'image montrant l'accolade entre Patrice Talon et Yayi Boni donne à Cotonou de l'ulcère à certains qui ne comprennent pas comment l'actuel président, après avoir été tant persécuté et contraint à l'exil, puisse tout effacer d'un trait. Les moins passionnés accusent l'ancien président de contraindre son successeur à une promenade inutile pour des intérêts inavoués. Le rapprochement entre les deux hommes en terre ivoirienne est mal vu. Une bonne partie des Béninois pensent que le voyage sur Abidjan reste une humiliation pour le Bénin, une perte de temps énorme pour le président Talon qui se doit d'être concentré pour réussir la mission qu'il s'est assignée. Le président de l'ONG Alcrer, Martin Assogba, ne cache pas son amertume.
Laissez le président Patrice Talon s'occuper des problèmes de pauvreté, des problèmes d'électricité, des problèmes de manque d'eau, où les gens qui ont composé avec Yayi Boni ont bouffé l'argent de l'eau des pauvres populations. On ne parle pas de ça. Moi, je demande au président Patrice Talon d'avoir la tête sur les épaules. C'est le peuple béninois qu'il a élu et le peuple béninois a des exigences vis-à-vis de lui pour les 5 ans que lui-même a promis faire au cours de son investiture. Il a dit qu'il fera de l'impunité et de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Nous l'attendons.
Mais il y en a tout de même qui pensent que cette rencontre permettra au président élu de travailler dans la paix et la quiétude.
Moi, j'applaudis. Parce que si vous voulez la paix ne s'achète pas. Il faut vraiment l'humilité. Regardez ce qui se passe chez les Soudanais. La République soudanaise est divisée en deux. Vous voulez ça dans le pays? Je les remercie encore et je remercie l'humilité du président Talon.
Quoi qu'il en soit, il faudra que les deux hommes arrivent à calmer les militants zélés de part et d'autre afin d'éviter des tensions larvées, véritable danger pour la paix chèrement acquise. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Violence au Burundi, au moins 3 personnes dont un officier de l'armée tué mercredi soir à Bujumbura et dans le sud du pays, selon l'armée et l'administration nationale. Les mobiles de l'assassinat du colonel dans un quartier du nord de la capitale ne sont pas encore connus. Les deux autres victimes ont été abattues dans la province méridionale de Bururi. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Devant la maison de feu colonel Emmanuel Buzubona, assise au quartier Bukirasazi de la zone Kinama au nord de Bujumbura, des voisins sont en deuil. Ce colonel de l'armée burundaise a été tué mercredi soir par des hommes armés alors qu'il rentrait chez lui. Les témoignages des habitants de Bukirasazi affirment qu'il a été abattu par des gens armés alors qu'il revenait d'une station faire le plein d'essence de sa moto. Le porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Waratuza, affirme que les enquêtes ont commencé pour identifier les criminels. Gaspard Waratuza indique qu'il y a 5 mois, il était en mission dans une école appelée Staff College de Dar es Salaam en Tanzanie. Le colonel Emmanuel Buzubona attendait calmement une nouvelle affectation. Par ailleurs, sur les collines Kivumu et Mushishima, en commune de Mugamba, province de Bururi, au sud du Burundi, 2 personnes ont été tuées mercredi soir dans un bistrot, selon le gouverneur Christian Nkurunziza. Mais d'autres sources parlent de 4 personnes tuées, dont un enseignant d'une école primaire. Depuis plusieurs jours, des assassinats et tueries sont observés dans plusieurs localités du Burundi, malgré la calmie relative des derniers mois. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, arrivé au pouvoir il y a près de 37 ans, affronte 6 candidats dimanche à la présidentielle. Mais les principaux partis d'opposition boycottent cette élection où le président sortant a l'assurance d'être réélu. Initialement prévu en novembre, le scrutin a été avancé au 24 avril par décret présidentiel sans explication officielle. Doyen par la longévité au pouvoir des chefs d'État africains, Obiang-Nguema, qui brigue un nouveau septennat à 73 ans, a été réélu en 2009 avec 95,37% des voix. Élection présidentielle au Tchad, l'opposition démocratique menace de ne pas reconnaître les résultats si la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, déclare gagnant dès le premier tour le président sortant Idriss Déby Itno. Elle entend former son propre gouvernement de salut national. L'opposition a le soutien d'une majorité de la société civile. Dobian Assingar est président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
Nous sommes dans une poudrière. Il faut craindre donc des conflits post-électoraux à ne pas en finir. C'est à la CENI de jouer son rôle pleinement. Si une partie se trouve lésée, ça veut dire que l'arbitre n'a pas joué correctement son jeu. Donc tout cela va se retourner contre la CENI qui n'a pas su être le bon arbitre.
Dobian Nasinga, président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Afrique du Nord maintenant, l'Égypte a dénoncé l'immixtion du secrétaire général des Nations Unies dans les affaires internes du pays. Ban Ki-moon avait interpellé les autorités égyptiennes pour leur demander de garantir un procès transparent des 2 éminents activistes des droits de l'homme accusés de bénéficier illégalement des fonds étrangers pour leur ONG. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou, a qualifié les propos du numéro 1 onusien de tentative d'intimidation vis-à-vis de la justice égyptienne pour influencer son travail. Mardi, le porte-parole de Ban Ki-moon avait dit dans un communiqué que l'ONU suit de près les affaires judiciaires qui visent les ONG poursuivies pour acquisition de fonds illégaux de l'étranger. Le communiqué citait nommément Gamal Eid et Osam Bargat pour affirmer leur droit à un procès transparent et équitable. La clarification du gouvernement est intervenue pendant la visite du secrétaire d'État américain John Kerry au Caire, qui s'est déplacé pour manifester le soutien de l'administration Obama à la stabilité de l'Égypte. M. Kerry a aussi précisé qu'il a discuté avec le président Abdel Fattah al-Sissi des moyens de réduire les divergences avec son régime. Depuis la chute de Mohamed Morsi, le nouveau pouvoir au Caire a lancé une implacable répression contre l'opposition, toutes tendances confondues, et de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'homme accusent M. Sissi de diriger un régime ultra-autoritaire.
Et pour terminer, le président américain Barack Obama participe aujourd'hui à un sommet à Riyad, en Arabie Saoudite, avec les leaders de ces 6 pays du groupe arabo-persique. Hier, le patron du Pentagone, Ashton Carter, a révélé que les États-Unis ont accéléré depuis un an leur coopération militaire avec les pétromonarchies du Golfe, inquiète de la menace posée par l'Iran. D'après le ministre américain de la Défense, en une année, les États-Unis ont autorisé plus de 33 milliards de dollars de vente d'équipements militaires aux pays du Conseil de coopération du Golfe. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.